L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 9. L'apôtre nous dit: « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue. » Et maintenant, je vais le lire selon le grec, selon la construction grammaticale. Portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissant dans la connaissance de Dieu, devenant puissant à tous égards ou étant fortifié, devenant puissant ou étant fortifié par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient, rendant grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Avant de décrire, d'expliquer, l'apôtre prie. Il fait ça d'habitude. Vous savez que l'église de Colosse est en proie à certains enseignements faux et, je dirais, extrêmement dangereux. Et Paul prie. Parce qu'il sait que pour délivrer quelqu'un comme vous et moi, nous sommes tous dans cette situation parfois dans la vie chrétienne, pour nous délivrer des fausses conceptions sur la vie chrétienne, sur la foi chrétienne, sur l'orientation de la vie spirituelle, pour nous délivrer de fausses conceptions là-dessus, il faut plus qu'un bon enseignement correctif. Ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir l'enseignement de l'apôtre lui-même qui remet les choses d'aplomb. Mais à moins que Dieu lui-même ouvre dans ton cœur pour te donner une sagesse et une intelligence spirituelle, la capacité de comprendre de manière spirituelle cet enseignement correctif, vous n'allez pas piger. Et vous ne serez pas délivré. Pour vous qui allez peut-être devenir ministre de l'Évangile, prédicateur ou pasteur ou ouvrier chrétien, là vous avez un point solennellement important. Il ne suffit pas de passer tout votre temps devant la Bible à étudier le texte. Ce n'est pas comme ça que l'œuvre de Dieu se fait. Il faut que vous soyez aussi à genoux devant Dieu en suppliant ce ministère de l'Esprit qui accompagne la parole enseignée. Je redis ce que j'ai dû vous dire une fois au sujet de mon ami et mon, dans un sens, mentor, M. Stuart Elliott, un homme qui a 75 ans maintenant, mais qui a eu un grand impact dans le monde et en francophonie comme dans l'anglophonie. Je l'ai entendu une fois dire qu'il avait eu l'habitude pendant des années de son ministère, si vous vouliez le retrouver un samedi soir, il fallait aller à l'église. Il n'y avait pas de réunion à l'église à Liverpool ou à Lausanne le samedi soir. Mais il était là tous les samedis soirs, seul. Il avait préparé son sermon, mais le samedi soir, c'était pour marcher entre les rangs et prier. Priez. Priez pour cette prédication et pour ce culte. Et priez pour les gens, par nom. Ah, je sais qui s'assoit là d'habitude. Et voilà comme il faisait. Et Paul faisait la même chose. Parce qu'il sait qu'il y a une œuvre de Dieu qui doit se faire et Dieu se fait supplier pour cela. Donc, cette prière de Paul ne ratait pas cela. Cette prière fait partie d'une action de guerre. Vous l'avez senti quand je l'ai lu? Non. Regardez avec moi le chapitre 4. Paul a prié qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et nous lisons dans le chapitre 4 et le verset 12. Epaphras, votre compatriote, vous salue, serviteur de Christ Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Le mot combattre, c'est le mot agonizomai, d'où nous avons notre mot agonie ou agoniser. Il combat jusqu'à l'agonie pour vous dans ce prière afin que parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu. Paul prie que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu et Epaphras prie dans le même sens parce qu'ils sont en train d'être déviés de la volonté de Dieu par ces faux enseignants, n'est-ce pas? Et donc là, il y a une bataille. Il y a une bataille pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont pris dans les sectes et dans toutes sortes de faux enseignements, même dans les églises évangéliques. Et ce n'est pas une petite affaire. Tournez avec moi au chapitre 2. Je n'ai pas fini de vous prouver que Paul fait la guerre. Chapitre 2, verset 1. C'est Paul cette fois. « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat !» Le mot « agon » qui est lié à « agonizomai ». « Quel grand combat je soutiens pour vous !» pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Mais comment est-ce que tu mènes ce combat puisque tu n'es pas avec eux? Paul parle aussi de sa prière en utilisant le même terme de combat. Donc, nous voyons que cette prière est d'une grande urgence et d'une grande importance. Et nos prières aussi, vos prières, pour qui? À qui pensez-vous maintenant? Qui a besoin d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle? Qui est dévié? Est-ce que vous priez pour eux dans ce sens? Paul prie très intelligemment. Vous avez remarqué combien la prière est détaillée? Paul ne prie pas comme ceci. « Seigneur, tu sais où sont les besoins de Jacques? Bénis-le là. Bénis-le. Sois avec lui. » Parfois, on entend des prières comme ça, n'est-ce pas? Paul ne prie jamais comme ça. Paul prie de manière précise et intelligente. Nous voyons un homme que Dieu a bougé. Il a amené Paul à comprendre la volonté de Dieu pour ces personnes, à comprendre ce que... la manière dont Dieu voit la situation, et puis de demander exactement cela. C'est-à-dire, il a fait de Paul un vrai compagnon d'œuvre. Et c'est ça, vraiment, la prière. Quand Dieu vous fait comprendre le vrai problème tel qu'il le voit, le vrai besoin tel qu'il le voit, et le vrai remède tel qu'il le voit, et il vous amène avec lui à demander exactement ce qu'il voudrait. C'est assez fort, n'est-ce pas? Et donc, nous voyons que dans la structure de Paul, il n'y a qu'une seule requête. Vous avez remarqué? Une seule requête. Nous le voyons dans le verset 9, où il dit, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Ça, c'est sa seule demande. D'accord? C'est là le besoin des croyants de Colosse. C'est là notre besoin pour grandir. Parce que vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous avez une image tordue de ce que ça veut dire plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu si vous n'avez pas une bonne idée de ce que c'est faire la volonté de Dieu. Donc Paul prie cette seule prière. Deuxièmement, après cette seule requête, il y a le but de la requête. Pourquoi est-ce que tu vas demander ça pour quelqu'un? Quel est le but? Tu as un but en demandant cela. Il dit, afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Pour que vous puissiez vivre avec Dieu selon sa volonté, en lui étant agréable. Lui, il vous aime, vous le rendez à lui en vivant une vie qui lui plaît. Et le reste de la prière, c'est quatre phrases qui commencent avec quatre participes en grec qui sont là pour décrire, mais qu'est-ce que c'est une vie qui plaît à Dieu à tout point de vue? Donc, on va les lire, ces quatre choses qui définissent la volonté de Dieu dont on doit être rempli de la connaissance. Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, première chose, portant des fruits en toute bonne œuvre. Deuxième chose, croissant dans la connaissance de Dieu. Troisième chose, devenant fortifié à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Quatrièmement, rendant grâce à Dieu, avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si nous voulons un peu résumer, la vie qui plaît à Dieu, si vous voulez la mener, selon Paul, à quatre aspects. Et Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que vous soyez féconde, portant du fruit en toute bonne œuvre, c'est que vous soyez intime avec lui, croissant dans la connaissance de Dieu, c'est que vous soyez fortifié, afin de persévérer et être patient dans les épreuves, et c'est que vous soyez reconnaissant pour son grand salut. Voilà le portrait d'un chrétien, quelqu'un qui vit de manière féconde envers le monde, des bonnes œuvres envers le monde, envers Dieu, il croit dans la connaissance, envers les épreuves de la vie, il est patient et persévérant par la force de Dieu qui se renouvelle en lui. Et envers le futur que Dieu lui dessine, ce salut glorieux, cet héritage des saints dans la lumière, il est reconnaissant. Reconnaissant, persévérant parce qu'il est fortifié, intime avec Dieu et portant du fruit dans toutes sortes de bonnes œuvres. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Envers les hommes, envers Dieu, envers les épreuves, envers l'avenir glorieux. Maintenant, ça c'est juste pour vous donner le survol, l'idée globale. Considérons juste un moment avant de regarder ces quatre aspects, considérant le but de cette requête. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est une phrase intéressante, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez que vous pouvez marcher d'une manière digne du Seigneur? Pas parfaitement, bien sûr, mais réellement. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher d'une manière digne du Seigneur? Un jour, Alexandre le Grand a eu devant lui un soldat. Un soldat qui a été amené devant lui parce que ce soldat était coupable d'abandon de l'armée au milieu du combat. Vous pouvez imaginer Alexandre le Grand. Mais en questionnant, en parlant avec ce soldat, il a pris vraiment de l'affection pour lui. Et à un moment donné, il lui demande, mais tu t'appelles comment? Et le soldat dit, je m'appelle Alexandre. L'empereur a rougi. Et il a dit d'une voix forte, alors, change ton nom ou change ton comportement. Parce que l'abandon au milieu de la bataille, en portant le nom d'Alexandre, c'est pas marcher d'une manière digne du nom. Et d'une autre façon, complètement, vous pouvez comprendre que marcher d'une manière digne du nom de notre Seigneur. Nous avons dans notre esprit constamment qui il est et ce qu'il mérite quand nous vivons la vie chrétienne. Si nous ne l'avons pas, on ne va pas y arriver. C'est ce qu'il est qui nous motive. Je me souviens quand mon père est décédé. Mon père était pour nous les enfants et bien d'autres personnes, une personne vraiment admirable. Mon grand frère a dit, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va essayer de vivre comme lui, il a dit. Je me souviens dans les mois qui ont passé, j'ai souvent pensé à papa, qu'est-ce qu'il aurait voulu que je fasse ici, là? C'est un peu ce sens d'affection, d'admiration pour le Fils de Dieu qui est vraiment au centre de notre motivation de la vie chrétienne. Mais il dit, pour marcher d'une manière digne de lui, pour lui plaire à tous égards. Lui plaire à tous égards. Est-ce que vous voyez? À tous égards, ça veut dire Dieu veut que vous ayez tout le portrait de la vie chrétienne. Pas votre spécialité. Moi, je spécialise en cette partie de la vie chrétienne. Non, pour lui plaire à tous égards. Parce que le problème, c'est que les pasteurs se rendent compte qu'il n'y a rien de plus commun chez les chrétiens que d'adopter une vision réductionniste de la vie chrétienne. Et de ne pas d'avoir une sorte de... Si vous avez un dessin de croquis d'un bonhomme qui est tout tête, il n'est que tête. C'est un monstre, n'est-ce pas? Si vous développez une partie de la vie chrétienne et le reste est presque atrophié, c'est une énormité que vous êtes en train de vivre. Pour plaire au Seigneur à tous égards. Je vous donne quelques exemples de christianisme réductionniste que nous voyons parfois le moraliste. Le moraliste, il dit, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, une chose qui compte, que je fasse ce qui est droit. Sauf que le psaume 147 nous dit ceci, ce n'est pas dans la vigueur du cheval que Dieu se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui pratiquent le droit? Non. L'Éternel aime ceux qui espèrent en sa bonté. Intéressant, n'est-ce pas? La vie chrétienne n'est pas au sujet de toi et le bien, le droit que tu fais, pas au sujet de ça uniquement, c'est au sujet de Dieu. Et sa bonté. Et du fait que je vis dans la confiance. Je vis en tant que récipient. Avant de faire, je suis quelqu'un qui est foncièrement, fondamentalement récipient. Parce que la chose la plus grande dans ma vie chrétienne, c'est pas ce que je fais de droit, c'est ce qu'il fait de bon. N'est-ce pas? C'est intéressant. Mais on peut réduire la vie chrétienne à un truc. Par exemple, vous avez aussi le microscopiste éthique. J'invente. Mais nous le voyons quand Jésus dit aux pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin. Microscopiquement, éthiquement. Ils allaient dans le jardin, ils enlevaient une feuille sur 10 pour donner ça au temple. N'est-ce pas? Donc, vous donnez la dîme de la menthe, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Parfois, il y a des chrétiens qui ont d'habitude, moi, quand je l'ai vu, c'est 3 à 6 choses sur lesquelles ils sont obsédés. Et c'est surtout des choses négatives et secondaires. Pourquoi tu es bon chrétien? Parce que je ne regarde pas la télé. Enfin, ils ont leur truc à eux, n'est-ce pas? Et or, le problème, c'est que quand vous êtes avec ces gens, parfois ils sont pas sympas, pas fiables. C'est pas agréable d'être leur enfant, leur collègue au travail. Mais je ne regarde pas la télé, n'est-ce pas? J'ai mes 5 choses que je fais, n'est-ce pas? Et nous ne regardons pas les choses plus grandes. Il y a aussi le chercheur de grandes expériences. Alors, c'est le chrétien qui a réduit la vie chrétienne au spectaculaire. C'est ça vraiment qui le préoccupe. Il ne peut pas vivre l'ordinaire qui constitue 95% de la vie parce qu'il veut que tout soit extraordinaire. Et donc, il est complètement déformé dans sa vie chrétienne. Mets-le dans un contexte où il peut demander ou espérer quelque chose d'extraordinaire, il est dans son élément. Mais ailleurs, il ne sait pas quoi faire. Ou bien vous avez l'intellectualiste. Lui, il pense que la vie chrétienne, c'est la doctrine, la théologie. C'est connaître beaucoup de choses. C'est connaître, tout est ici. Presque rien est ici ou ici. Dans le faire ou dans le sentir, parce que tout est dans le savoir. Ou bien vous avez le contraire, vous avez le sentimentaliste spirituel. Ça, c'est la personne qui va d'une expérience émouvante à l'autre, sans jamais changer. C'est vraiment fou. Cette personne me dit, oh, j'ai été tellement touché par ce sermon. Et la personne est très contente d'avoir été touchée, parce que c'est ça qui compte. Si j'ai été touché, tout va bien chez moi. Sauf que je rentre à la maison et je ne change pas sur ce qui m'a touché. Je ne fais pas le boulot difficile et concret pour changer des choses dans ma vie. Je pense qu'ils vont changer tout seuls parce que j'ai été touché. N'est-ce pas? Mais c'est réduire la vie chrétienne à l'émotionnel. Vous voyez? Ce n'est pas seulement les Colossiens qui sont en danger de dévier la volonté de Dieu, de dévier la spiritualité. Nous aussi, nous sommes constamment tentés de faire cela. Et donc, vous pouvez ajouter d'autres exemples aussi, n'est-ce pas? Ce serait intéressant d'en parler. Mais nous allons finir en abordant les 4 aspects de Paul, pas très en détail, mais la première chose. Nous devons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu parce que si nous le sommes, et tenez bien, quand Paul dit « je prie », il ne prie pas que vous sachiez la volonté de Dieu. Vous avez remarqué? Il prie que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il utilise le mot « rempli » Avez-vous été rempli de colère ou rempli de joie? Quand la Bible dit que quelqu'un est rempli, ça veut dire que la chose qui le remplit est en lui jusqu'au point de le contrôler. Je suis rempli de joie, je suis rempli de colère. Que vous soyez rempli de la connaissance de sa volonté. C'est-à-dire que Dieu tellement ouvre tes yeux de plus en plus, ça prend du temps, pour comprendre spirituellement sa volonté que cette compréhension vous contrôle et vous change et vous devenez cela. Vous devenez cela parce que vous avez été rempli de la connaissance, une connaissance dominante de la volonté de Dieu. Vous le voyez de manière à ne pas pouvoir ne pas l'aimer. C'est un peu ça. D'accord? Ah! Moi, je veux être comme ça. Ok. Premier aspect. Portons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Paul prie que donc nous puissions connaître la volonté de Dieu de manière à être poussés à plaire à Dieu à tous égards, par exemple, en portant des fruits en toute bonne œuvre. Il ne prie pas, et vous ne devez pas prier aux autres, simplement qu'on puisse faire beaucoup de bonnes œuvres. C'est pas le fait de faire des œuvres, c'est le fait de porter du fruit dans les bonnes œuvres qui prie. Vous voyez la différence? Il y a des gens qui sont religieux et qui font plein de bonnes œuvres, mais ce n'est que de l'air chaud. Ça souffle. Ça ne change personne. C'est plus pour la personne que pour l'autre. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous fassions de vraies bonnes œuvres. C'est-à-dire, nous soyons tellement remplis de la volonté de Dieu, ce que Dieu veut vraiment, que nous sachions quoi faire, pour qui, à quel moment, de quelle façon. Et de manière que, quand nous agissons vraiment dans le Seigneur, le toucher de Dieu accompagne notre acte, nos bonnes œuvres. Et ça porte du fruit. Ça change les gens. Ça, c'est merveilleux. C'est plus que nous ne pouvons faire de nous-mêmes, mais c'est ce que nous devons faire. Nous devons devenir fructueux. Jésus dit ceci en Jean chapitre 15, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est la première prière de Paul. Que cette connaissance de la volonté de Dieu nous amène à être des gens qui porte vraiment du fruit dans les bonnes œuvres envers les hommes. Toutes sortes de bonnes œuvres. Le partage de l'évangile, en aidant quelqu'un qui est malheureux, en visitant des veuves, en toutes sortes de bonnes œuvres. Deuxièmement, croissons dans la connaissance de Dieu. De plus en plus, quand vous allez être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse, vous allez être convaincu qu'il ne suffit pas de faire de bonnes œuvres. Une vie de bonnes œuvres, même qui porte du fruit, c'est pas ça ne suffit pas. Je ne dois pas être tourné uniquement vers les hommes et leurs besoins, je dois être aussi tourné vers mon Dieu, qui m'a fait, qui m'a aimé, qui m'a fait pour lui. Donc, je porte des fruits dans les bonnes œuvres, mais je crois, je grandis dans la connaissance de Dieu. Ma vie chrétienne n'est pas que dans le faire, c'est dans l'intimité avec Dieu. Et vous avez donc là les deux parties, actif et contemplatif, de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Et si vous voulez un petit détail, si vous regardez dans le chapitre 1 et verset 6, regardez bien. Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte du fruit et fait des progrès. Ici, c'est les mêmes mots en grec dans la prière. Porte du fruit et croître. Faire des progrès, c'est le même verbe croître. Ce que l'évangile fait, Paul prie que toi, en tant que chrétien, tu le fasses aussi. Sauf que pour chaque élément, il ajoute quelque chose. Porte du fruit en toute bonne œuvre, grandit dans la connaissance de Dieu. C'est un clin d'œil vers la Genèse et la création, où Dieu fait un monde où les plantes et les animaux portent du fruit, se reproduisent et grandissent. Et Paul prie que la nouvelle création que nous sommes ait cette même prodigalité, que nous soyons féconds dans la vie des autres et dans la connaissance de Dieu. C'est formidable, n'est-ce pas, la volonté de Dieu? Est-ce que vous grandissez dans la connaissance de Dieu? Vous le connaissez de mieux en mieux, de plus en plus intimement? Le mot que Paul utilise n'est pas le mot ordinaire pour connaissance, gnosis, mais c'est épignosis. Il prie que nous puissions grandir dans la pleine connaissance de Dieu. Ensuite, devenant puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Ça, c'est le troisième aspect. Il ne suffit pas que vous portiez de bons fruits dans les actes envers les autres et que vous croissiez dans votre connaissance de Dieu. Il faut aussi, si vous voulez connaître et faire la volonté de Dieu, qu'on fasse des défis, des difficultés, des épreuves dans un monde perdu. Il faut que vous deveniez persévérant et patient. Parce qu'il y a des gens qui portent du fruit et qui grandissent dans leur connaissance de Dieu et qui échouent. Parce que devant telle ou telle épreuve ou désastre, ils n'ont pas su marcher dans la volonté de Dieu au sein de cette tragédie ou de cette épreuve. Et donc pour cela, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Devenons puissance par sa force glorieuse afin que vous soyez persévérants et patients. Vous savez que je pense que dans l'église de Colosse, ils avaient de faux enseignants avaient un accent sur la puissance de Dieu. Mais ils voulaient la puissance de Dieu pour une autre raison. Par exemple, dans le chapitre 2 et le verset 18 et suivant, il parle du fait qu'ils sont enflés par leur vision angélique, et, n'est-ce pas, etc. Mais Paul dit, non, vous avez besoin du surnaturel, mais pour une toute autre raison. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de la puissance de Dieu? Quelle est votre vision de la volonté de Dieu? Comment est-ce que vous comprenez la vie chrétienne? Est-ce que vous avez toute sagesse et intelligence spirituelle? Si vous l'avez, vous comprenez que la première raison pour la puissance, c'est pas pour faire les exploits. C'est pour être persévérant et patient en toute épreuve. Intéressant, n'est-ce pas? Ça change notre idée de la puissance spirituelle. Devenons puissants par sa puissance glorieuse afin que vous soyez persévérant et patient. Dites-moi, dans le jardin de Gethsémané, pourquoi est-ce que Jésus a été puissamment fortifié par un ange? Vous savez la réponse? Pour pouvoir endurer la souffrance patiemment et obéir jusqu'au bout. Nous admirons le Seigneur pour cela, n'est-ce pas? Nous sommes émerveillés de lui là. C'est là que je l'admire le plus. C'est pas quand il guérit Bartimée. J'admire aussi là. C'est incroyable. Mais le plus grand miracle, c'est dans cette souffrance de la croix. Où il va dire, un moment après des heures, il va dire, j'ai soif. Une soif qui tue. On lui avait offert à boire des heures avant, n'est-ce pas? Mais c'était du myrrhe et du vin qui endormait les sens, qui rendait plus facile à supporter les souffrances. Il a rejeté cette boisson. Mais maintenant, des heures plus tard, il dit, j'ai soif. et on lui donne, en comprenant ce qu'il ne veut pas, on lui donne du vinaigre qui ranime les sens, il sent toute la souffrance et qui humidifie la gorge. C'est ce qu'il voulait. Parce qu'il veut aller jusqu'au bout et il a une chose à dire et à dire très fort. Ayant pris le vinaigre sur l'éponge, dit l'Écriture, il crie « Tout est accompli !» Et il rend son âme à Dieu. Il était devenu puissant par la force glorieuse de son Père afin de persévérer jusqu'au bout dans la souffrance. Je ne parle pas de la résignation dans l'épreuve. Parce que cette force nous permet de faire tout ce qu'il faut dans l'épreuve et d'être patient pour tout ce que nous ne pouvons pas faire. Mais vraiment, c'est un aspect de la vie chrétienne où on a besoin de puissance. Si jamais j'ai besoin de puissance dans la vie chrétienne, c'est là. C'est là. Ensuite, avec joie, rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Avec joie, rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Paul donne une description assez longue du salut et il dit grosso modo que la quatrième caractéristique d'une vie chrétienne selon la volonté de Dieu, c'est qu'on devient des gens qui sont de plus en plus habités habituellement par une grande reconnaissance. Est-ce que vous êtes quelqu'un qu'on pourrait qualifier de reconnaissant, plein de gratitude, qui vit un peu sur une vague douce de gratitude à cause de l'héritage des saints dans la lumière? Ça veut dire les saints qui sont déjà auprès de Dieu, qui sont dans la lumière. Il nous a rendus capables. On ne l'a pas fait nous-mêmes. On n'était pas capable d'avoir part à cet héritage. On voulait le contraire. On n'aurait même pas voulu si on nous avait offert le paradis chrétien. Non, pas pour moi. J'ai eu des gens qui me disent que ben, si je dois être auprès de Dieu et chanter ses louanges, je préfère être à l'enfer. N'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que vous avez envie? Vous voulez aller auprès de la présence glorieuse du Seigneur. Le Père vous a rendu capable, qualifié, vous a changé. Par Jésus-Christ, par sa rédemption, par le pardon de péché, par la nouvelle naissance. Et Paul dit que si nous sommes des chrétiens, nous devons être en train de rendre grâce. C'est la volonté de Dieu pour vous de rendre grâce en tout temps. En ayant les yeux de plus en plus, c'est difficile, mais de plus en plus fixés vers cet avenir brillant. L'héritage avec les saints dans la lumière qui nous attire avec gratitude vers Dieu. Juste un petit détail et je conclue. Paul dit dans cette description du salut qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Une partie de cette reconnaissance est de comprendre, et il dit que en qui nous avons la rédemption de le pardon du péché. C'est assez détaillé comme description de ce pourquoi nous devons être reconnaissants. Comment est-ce que vous allez être reconnaissant si vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait pour vous? Vous ne pouvez pas l'être. Et c'est un des problèmes des chrétiens évangéliques parfois. Leur idée du salut, c'est le pardon. C'est le pardon. Or, toutes ces dimensions qui partent dans des directions différentes chez Paul, on ne le voit pas. Mais Il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça veut dire qu'avant, vous étiez sous la coupe, sous l'emprise. C'est ça le mot qui est utilisé ici, du pouvoir des ténèbres. On vivait dans la sphère de Satan, sous sa coupe, sous son emprise. On était esclaves. Et Dieu nous a transportés, il nous a enlevés de cette sphère, de ce royaume, de ce règne, de cet empire, et il nous a plantés dans le royaume de son Fils bien-aimé. De sorte que Satan ne peut pas, écoutez-moi, Satan ne peut pas faire dans la vie d'un chrétien ce qu'il peut faire dans la vie d'un non-chrétien. Ce n'est pas possible. Il y a des enseignements vraiment blasphématoires qu'on entend parfois dans les églises, comme quoi un chrétien peut être possédé par un démon. Dans ce cas, il n'a pas été transporté du pouvoir des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il ne l'a pas été. Si vous êtes citoyen français et vous changez de nationalité, vous abandonnez la nationalité française pour devenir espagnol. D'accord? Parfois, on a le choix entre deux, si on est à deux parents. Et si vous abandonnez la nationalité française, vous êtes maintenant uniquement espagnol et vous allez vivre en Espagne. Je vous assure que la France ne peut plus vous réclamer des impôts. Le pouvoir légal de la France sur ta vie est fini. Il y a des Français qui peuvent t'embêter en Espagne en faisant trop de bruit la nuit quand tu essaies de dormir. Mais le pouvoir français, de l'État français, ne peut pas te garder sous son emprise. Ce n'est plus possible. Tu as été transporté dans un autre empire, sous une autre autorité. Et il y a un changement de pouvoir. C'est merveilleux pour nous. Nous sommes dans une situation absolument merveilleuse. Celui qui nous a sous son emprise, c'est le Fils bien-aimé de Dieu. Ça, c'est bien. Et nous sommes donc reconnaissants tous nos jours. Je pense que les anges doivent. Je sais que c'est pas vrai, mais permettez-moi, s'étonner parfois de combien nous sommes ingrats. Ils doivent être un peu époustouflés, mais pourquoi est-ce que, en parlant de nous, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas remplis de reconnaissance tous les jours, sachant ce que Dieu a fait pour eux, et où ils vont, et à qui ils appartiennent? Ont-ils oublié? Ne savent-ils pas? Mais c'est pour ça que nous avons besoin que Dieu nous remplisse de la connaissance de sa volonté, pour que nous soyons reconnaissants, n'est-ce pas? Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous avez de plus en plus cette vie chrétienne à tous égards, portant du fruit? Dans les bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu, étant fortifié pour mener une vie persévérante et patiente, et rendant grâce tous les jours pour ce salut merveilleux que Dieu nous aide, il est en train de faire justement cela dans nos vies. Nous allons chanter au Seigneur. Un chant qui parle un peu